Witch Inside. Le rock d'ici au féminin. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Sarah Baume et je suis ravie d'être derrière ce micro en compagnie de mon acolyte, la chanteuse, compositrice et multi-instrumentiste connue notamment pour son projet Baby Fire. J'ai nommé Dominique Van Capellen-Waldock. Salut Dominique.
Salut.
Pour ce premier épisode d'une série de podcasts rassemblés sous le nom de Witch Inside / le rock d'ici au féminin, une initiative lancée et produite par Freaksville avec la complicité de Jacques de Pierrepont alias Pompon et également avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un projet qui englobera au-delà de ce podcast un livre de photos et d'illustrations. Retraçons quelques grands moments féminins de l'histoire du rock belge, ainsi qu'une exposition itinérante. Mais pour l'heure, on va surtout se concentrer sur le volet du podcast grâce à des échanges qui tenteront humblement de dégager certaines thématiques propres à la fois au secteur musical
alternatif
belge, qu'il soit bruxellois ou wallon, et à la fois au féminin, au sens très large du terme. Pour atteindre ce noble objectif, Dominique et moi-même avons le plaisir de compter parmi nous aujourd'hui pour ce premier numéro deux invités de marque. Tout d'abord, l'artiste, musicienne, compositrice et chanteuse Elena Lacroix, qu'on connaît particulièrement bien via son groupe Eosine. Projet d'influence shoegaze et dream pop aux accents expérimentaux qu'Elena a fondé courant 2018 et qui ne cesse de prendre de l'ampleur depuis. Salut Elena.
Salut.
Et nous sommes enfin également ce soir accompagnés de l'artiste, chanteuse et bassiste Laurence Castelin, active dans la musique depuis 1987 et ce au sein de nombreuses formations punk, rock et électro. Et qui nous fait le plaisir d'être également avec nous aujourd'hui. Bonsoir Laurence.
Bonsoir à toutes les quatre.
Alors bien sûr, chacune a une expérience bien plus importante et bien plus complexe dans la musique. Et nous allons prendre le temps d'en parler au cours de nos discussions. Discussions que je vous propose d'engager tout de suite. Et pour ce faire, j'arrête un peu de parler pour laisser l'occasion à Dominique d'exister.
Oui, voilà. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Votre entourage, d'autres groupes, des groupes connus, des groupes pas connus?
Alors pour ma part, en fait, c'était en 2018 du coup, c'était un concert d'un groupe wallon qui s'appelle Pelgré. Someone sitting in the sand, she's gazing at me. I saw her before we did not agree. Et en fait, j'avais jamais vu ce groupe. Mais j'avais quasi jamais vu de concert à l'époque. Et quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. C'est des types, ils sont en train de créer un machin. Ils étaient quatre. Et voilà, je suis tombée vraiment amoureuse de ce projet. Et je me suis dit, bah voilà, c'est ça que je veux faire. Le lendemain, j'ai écrit ma première chanson. Et c'était pas bien, mais j'ai commencé comme ça.
Et donc, tu étais autodidacte ?
Oui, complètement.
Magnifique.
Bah, tu sais, moi, c'est à peu près pareil. C'est en allant en concert que je me suis dit, bon, ben, je veux faire ça aussi. Et quasi autodidacte également. J'ai fait un peu de piano quand j'étais petite, ce qui me sert un peu quand même avec le recul. Et puis, bah, je voulais chanter. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais une tessiture qui ressemblait à une chanteuse qui était la chanteuse de Shocking Blue. Et donc, c'était mon prof de chant, la chanteuse de Shocking Blue, à distance, elle ne le sait toujours pas. Et j'ai commencé par chanter Vénus. Et...
Dans ton cas, Elena, ce sont des hommes qui t'ont donné envie de chanter. Est-ce que Laurence, c'est la même chose pour toi?
Ben oui, mais pas à la force des choses, parce qu'il y avait essentiellement des hommes sur scène.
Bien sûr.
Et donc, oui, forcément. Bon, j'écoutais beaucoup les chanteuses de la Motown et certaines jazzwomen, mais on voyait essentiellement des hommes sur scène, oui.
Est-ce qu'il y a eu, dans vos deux cas, une sorte de réflexion là-dessus, où vous vous êtes dit, en fait, ça ne change rien que je sois une femme, c'est pas un problème, c'est pas un obstacle. Est-ce que vous vous êtes dit cela, ou c'était pas conscient?
Eh bien, figure-toi que j'ai réfléchi à la chose, puisque quand on a monté en 88, alors à ce moment-là, mon deuxième groupe, qui était un groupe exclusivement féminin, j'y ai repensé en venant ici, et je me suis demandé, je dis, est-ce qu'on a voulu fonder un groupe féminin, ou est-ce qu'on a constaté qu'on avait construit un groupe féminin, et qu'une fois qu'on était déjà trois dans l'histoire, on a voulu continuer, hein, parce qu'on se marrait vraiment très très bien entre nous.
Et ce groupe, c'était The Chicks, disons-le.
Yes. Forever. Et donc, on jouait toutes dans des groupes mixtes, donc, puisqu'on était souvent seules femmes par-ci, par-là.
Ouais.
Et on a fondé ça en tant que copines, devenues amies, et nous le sommes toujours, toutes les quatre, d'ailleurs.
Et si on devait écouter un morceau des Chicks, ce serait lequel ?
Je crois que le seul qui a été récupéré sur la bande déchirée, c'est Monday Tuesday. Et donc, ce sont des petites chansons sur la vie, plutôt humoristiques, gentiment moqueuses. Et...
on écoute ça tout de suite. Elena, est-ce qu'il y a des femmes qui ont été tes modèles ? Et je pense bien sûr au secteur de la musique belge, mais au-delà.
Alors oui, bien sûr, il y a été des femmes. Et en fait, ça a été des modèles, pas du tout parce que c'était des femmes, mais simplement parce que j'aimais bien leur musique. Mm-hmm. Et par exemple, quand j'étais voir ce fameux concert de Pellegré, je me suis jamais dit « Ah merde, je peux pas faire ça parce que je suis une femme ». En fait, je me suis jamais sentie bien différente des hommes. J'ai toujours traîné avec des hommes. J'ai toujours eu une voix fort grave. Je me suis jamais sentie bien différente, en fait. Donc, je n'ai pas cherché, justement, à essayer de trouver une appartenance, à essayer de trouver des modèles que je pourrais comprendre. Parce que, comme je disais, je voyais pas, je me disais, je peux m'inspirer de ces choses-là aussi. Parce que je peux les atteindre aussi. Et le fait d'être dans notre genre n'est pas du tout un obstacle pour ça. Mais alors, évidemment, oui, j'ai beaucoup de, dans la même veine, par exemple, j'ai beaucoup écouté Condor. Let your body down and keep your fingers on the ground. Put them deeply as you can. Please shut your fucking mouth. Et il y a un côté que j'adore, parce que c'est un groupe aussi exclusivement féminin. La plupart du temps, je sais que Olivier Cox, à la batterie, fait parfois des interventions. Mais je trouve justement dans ce groupe un côté extrêmement puissant, qui est camouflé par pas mal de douceur, parce que c'est un projet qui est basé sur du piano et sur du chant, mais il y a un côté extrêmement sombre et extrêmement... ça me fait un peu penser à, dans Le Seigneur des Anneaux, Galadriel, je sais pas si vous voyez,
oh, elle
est toujours en mode... Wow,
c'est là
ça,
que Max au son nous met une très grosse réverbe.
Oui, c'est ça. Donc j'ai trouvé ce côté-là, justement, et ça m'a beaucoup parlé. Et là, c'est vrai que c'est un côté féminin, là, qui par contre me parle. Ce côté vraiment un peu, pas vraiment sorcier, mais une puissance qui, je trouve, ne se retrouve pas beaucoup sous cette forme-là chez des artistes masculins.
C'est intéressant ce que tu dis là, parce que je connais beaucoup de musiciennes qui se sont posées la question de la légitimité. Donc, comment tu te sens par rapport à ça ? On dirait que non, tu t'es pas posé la question.
Pas du tout.
Voilà, c'est intéressant, parce que la plupart des musiciennes que je connais se posaient des questions de légitimité.
Et c'est vrai qu'on y est souvent confrontés. Moi, je me rappelle une fois au Festival de Dour, où j'ai joué cette année deux fois, dans deux groupes différents. Et j'ai eu un souci avec un bracelet, enfin bref. Et donc, je suis allée demander à la sécurité pour avoir mon passe. Et la personne m'a demandé, ah tiens, tu fais vraiment partie d'un groupe. Et donc, du coup, ces personnes font appel à toi quand elles ont besoin de toi. Et je me dis, ben non, c'est moi la compositrice, c'est moi le membre fondateur du projet. Donc c'est évidemment des choses auxquelles on est confronté, mais moi ça me fait plus rire qu'autre chose. Parce que je me dis, c'est quand même idiot de se baser sur un genre, sur des chromosomes finalement, pour juger de ta légitimité de t'exprimer en tant qu'artiste.
Tout à fait, c'est donc, bien que tu le prennes comme ça.
Mais c'est une...
Parce que parfois ça peut faire très mal. Hein.
C'est une époque alors qui est un peu plus accueillante, parce que ça n'a pas toujours été aussi simple.
Comment tu as vécu ça toi ? Comment tu vis ça encore ? Parce que ça continue.
Oui, moi, pour le chant, je me suis pas posé de questions. J'ai eu aussi envie de chanter et tout ça. Il faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque. Quand on voyait des filles sur scène, les rares filles sur scène étaient toujours chanteuses, rarement compositrices. Certaines étaient là pour, comme décorum. il faut y aller. Et je t'avoue qu'au début, nous étions assez vexés quand on nous engageait parce qu'on était des filles pour un peu chauffer la salle ou des choses comme ça. Voilà. On devait rester dans notre petit rôle. Ce qui nous a absolument pas arrêté. Et la question de la légitimité, j'y avais jamais pensé. Mais maintenant que j'entends ça, je me dis, tiens, c'est vrai qu'en tant que chanteuse, je ne me suis jamais posé la question. Peut-être plus en tant que bassiste, parce que comme j'ai fait ça sur un tard, parce que c'était pour répondre à un besoin, il manquait de certaines fréquences dans un groupe, et je me suis dit, tiens, bah, je vais ajouter de la basse. Et qu'en effet, j'ai eu plus de difficultés à accepter, à m'accepter comme instrumentiste. Bah, tout est possible, et en effet, il faut y aller, quoi.
Et c'est vrai pour...
Mais nous avons deux tares, hein. Nous sommes femmes et belges. Et la question de la légitimité, elle est à plus large échelle dans le paysage musical belge.
Tu voulais dire,
Hélène ? Oui, je voulais dire que justement, cette question de la femme instrumentiste, c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent. Et c'est vrai que moi aussi, on me considère toujours comme chanteuse. Et la plupart du temps, on n'installe même pas de stand pour ma guitare ou quoi que ce soit, alors que sur la fiche technique, il est bien marqué que je suis chanteuse-guitariste. Mais aussi, je trouvais hyper intéressant cette idée de « on va mettre une femme parce que c'est bien politiquement correct ». Et puis surtout, on est à une époque où actuellement, on a une espèce d'ouverture vers... tout le monde prône un peu de la diversité, essaie de mettre plus de femmes sur scène, mais ça en devient pervers. Parce que je connais certains groupes et même certains groupes dans lesquels je joue qui utilisent ça en mode ah ben il faut faire des photos où t'es dessus parce que si tu n'es pas dessus on sera refusé dans certains concerts alors que fondamentalement c'est pas mon groupe, j'ai un rôle qui est très secondaire, mais on me met en avant pour justement jouer cet argument du politiquement correct d'avoir des femmes dans la musique.
Bah, ce qui est terrible ici c'est qu'ils te l'ont dit, ils l'ont formulé, il n'y a même pas de honte à le dire, à dire ah ben tu vas faire bonne figure sur les photos pour nous.
Complètement, mais parce que c'est comme ça que ça marche et maintenant on a des quotas et on doit par exemple pour participer à certains festivals qui ne sont même pas ouvertement féministes dire ah bah tiens, si tu as une personne femme non-binaire ou quoi que ce soit d'autre qui n'est pas un homme cis, eh ben, tu as plus de chances d'être sélectionné. Et donc, du coup, tout le monde va dire ouvertement, bah voilà, c'est un fait, on aura plus de chances de jouer si tu joues avec nous.
Mais c'est, dès qu'il est question de quota, c'est un échec. Hein. C'est que, comme en politique, comme en musique. Je lisais justement un article au mois d'avril sur la légitimité des entrepreneuses. Un panel de 120 entrepreneuses de Normandie, je crois. Et donc, on remarquait chez toutes ces femmes, dans les statistiques, un problème de légitimité par rapport à leur entreprise. Et rien à voir avec la musique, mais quand même un petit peu dans la démarche. Ils avaient constaté donc que ces femmes se cantonnaient à des micro-entreprises. Donc, en fait, manifestaient une ambition moindre, par définition, même dans l'entrepreneuriat, quoi.
Oui, il y a un lien évident avec la musique, quand même.
Oui, je trouve. Dans la démarche.
Et pour en revenir à vos débuts, comment a réagi votre entourage, Laurence, à l'époque ?
Bah, écoute, ma famille n'adorait pas que je hurle dans un micro. Et je trouvais ça extrêmement sain, parce que je trouve ça très rock'n'roll de faire de la musique qui ne plaît pas à ses parents.
Tout à fait.
Donc, par contre, mes amis, eux, point S, étaient tous là. Et oui. On n'a pas eu d'opposant à ça.
Et le fait que tu fasses ça sur le long terme, parce qu'ils auraient pu se dire « Oh, c'est... parce que t'as 18 ans, ça va te passer, tu vas faire autre chose. » Mais le fait que tu aies continué, comment est-ce qu'ils ont vécu cela ?
La plupart se demandent pourquoi, puisque je n'en vis pas, que je rame quand même. Hein. Enfin bon, je rame, non parce que j'ai appris à vivre en faisant des petites formations, en ayant un autre métier, parce que je ne peux pas vivre de la musique. Et donc, moi, c'est pas comme ça que je le considère, c'est un besoin, mais mon entourage familial pensait plutôt que c'était un hobby, quoi.
C'est ça.
Ce qui n'est pas le cas.
Mm-hmm. Et toi, Hélène ?
J'ai la grande chance, en fait, d'avoir des parents qui sont musiciens. Et donc, ils ont forcément compris, m'ont même encouragé au début, même s'ils ne savaient pas que j'allais en faire vraiment une grande partie de ma vie, au point où je fais des études à côté parce que je ne vis pas non plus de la musique. Et ils m'ont dit, là, actuellement, j'ai la grande chance d'avoir un projet qui tourne pas mal. Et j'en viens à me demander si je ne ferais pas une pause dans mes études. Et c'est les premiers à me dire, ah ben voilà, ben la musique, ça arrive maintenant. Tes études, ben, tu peux être médecin à 50 ans, mais la musique, c'est maintenant que ça se passe. Donc, ils n'ont aucun problème. J'ai la grande chance d'être soutenue à ce niveau-là.
Magnifique. C'est vrai que j'ai eu de la chance aussi. Ma maman m'a toujours soutenue. Elle vient au concert quand elle peut encore. Mon père m'a soutenue aussi. Donc, ouais, j'ai eu de la chance. Ouais.
Eh bien, pareil pour moi. Nous avons beaucoup de chance autour de cette table.
Je me demandais, mais je pensais plus une question pour Laurent, c'est est-ce que tu as déjà envisagé d'arrêter la musique ?
Non. Si je devais arrêter la musique, ce serait par la force des choses. Des formations se sont arrêtées, mais dans ma tête, je sais pas, d'ailleurs c'est marrant, il y a une amie qui m'a posé la question récemment, dans un de nos projets, qui me dit, oui, mais tu comptais faire ça jusqu'à quand ? Je dis, bah écoute, je m'étais jamais posé la question. J'allais... Bon, je vais pas faire ma Dalida et mourir sur scène, mais je ne m'étais pas posé la question de l'arrêt. Il faut toujours, j'ai besoin de faire. Et si c'est plus sur scène, ben je vais continuer à composer ou écrire, et voilà.
La question se pose vraiment, parce qu'il y a vraiment, comme ça, des gens qui savent s'arrêter, et puis il y en a qui savent pas s'arrêter. Je pense qu'ici, c'est plutôt le cas, autour de cette table. Moi, je me vois pas du tout arrêter non plus, par exemple.
Moi non plus. Je me disais, à 75 ans, je vais faire du black metal.
Il faut se fixer un objectif.
Par contre, j'ai une amie musicienne, et quand elle a eu son premier enfant, elle a vraiment espacé les répétitions. Enfin, elle a fait une longue pause, puis elle a espacé les répétitions. Et à son deuxième enfant, elle a dû arrêter. Elle pouvait plus suivre, et ça, c'est vraiment dommage.
Moi, j'avais une question pour vous deux. Est-ce que vous avez rencontré, dans votre expérience de musique dans le secteur musical et donc belge, des hommes qui sont sensibles aux difficultés que représente le fait d'être une femme ? Qu'est-ce que vous pensez du regard des hommes sur justement les questions de parité dans la musique, Laurence ?
Oui, et de plus en plus. Dans mon entourage, j'ai de plus en plus de personnes qui se penchent sur la question. Et certains même... dont nos vieux amis qui y pensaient déjà avant.
Parce que t'as
c'était pas pléthore, hein, c'était pas. ça vient.
Et qu'est-ce qu'ils te disent, par exemple ? Parce que je pense qu'avant, c'était peut-être pas. Alors, c'est peut-être un sentiment, c'est peut-être pas généralisé, mais j'ai l'impression qu'avant, on se posait même pas la question, c'était comme ça, en fait. Il y a surtout. Parce qu'il y a énormément d'hommes, en fait. C'est un milieu majoritairement masculin. Mais avant, bon, voilà, comme tu en as parlé tout à l'heure, il y avait quelques femmes, voilà, ça gravitait, il y avait quelques instrumentistes, plusieurs chanteuses, pas mal de chanteuses. Mais ça ne se posait pas autant qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a finalement déclenché, vous pensez, un peu cette réflexion ? Est-ce que c'est l'époque ? Ou est-ce que simplement, il y a aussi parfois des hommes qui disent « Putain, c'est quand même curieux. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de femmes dans ce milieu ?»
Ouais, moi, je vois quand même un changement dans l'attitude par rapport à comment on nous considérait autrefois. Par exemple, tu vois, bon, généralement, tu fais un soundcheck hein, avant un concert. Donc, sur des centaines de soundchecks, il y a toujours un moment où quelque chose ne fonctionne pas. Et ça, j'ai remarqué, et je suis assez contente, ça a changé. Pendant de longues années, quand quelque chose ne fonctionnait pas, le premier mot qui venait, souvent d'ailleurs à l'ingé son, c'était « Oui, mais dis, tu n'as pas encore branché ton truc à l'envers. » Non, je ne branche pas mes pédales à l'envers. Il m'arrive de me tromper dans des branchements, hein, comme tout le monde. Mais à partir du moment où ça ne marche pas, j'ai vérifié. Ce n'est pas parce que je suis une fille que je ne sais pas brancher mes pédales.
C'est terrible. Est-ce que ça vous est tout arrivé aussi ?
Bien sûr.
Bien évidemment, on est toutes d'accord.
Ah bah oui, les ingé sont...
C'est fou, hein ?
Ouais. Pas c'est... avec le mien.
Non, mais...
qui est dans la pièce.
Non, mais ils sont... et de moins en moins, et il y a aussi le... Ils ne sont pas tous comme ça, mais c'est avec des inconnus. Ou c'est souvent une réflexion qui vient... Tiens, elle a sûrement mis son machin à l'envers, là.
Et il y a un truc pervers qui fait que, parfois, certains garçons veulent m'aider. Alors que
ah
je
oui,
sais
oui,
le faire.
Oui, demandé, vous mais voulez ranger
attends,
mon instrument
alors
à ma place.
Voilà, ils prennent des trucs, ils te disent rien, attends, je vais le faire pour toi. Comme si, de facto, en fait, t'étais nulle et que tu sais que t'étais pas technicienne, voilà, et puis t'as même pas besoin d'être technicienne pour brancher.
C'est vrai qu'il y a, un truc aussi, moi, qui m'arrive quand même assez régulièrement, c'est que dans mon projet, j'ai quand même pas mal de techniques, genre j'ai une grosse chaîne MIDI avec j'ai un looper, j'ai un truc qui envoie des vidéos, enfin j'ai tout un tas de trucs. Et quand il y a quelqu'un qui a des questions sur ça, maintenant ça arrive moins parce que je montre plus. Que c'est moi qui gère, mais c'était jamais moi qu'on venait trouver pour comment la chaîne MIDI marchait alors que c'est moi qui l'ai faite. Donc, mais ça arrive quand même de moins en moins. Mais c'est vrai qu'au début des usines, on venait toujours trouver le batteur ou le bassiste ou n'importe qui, mais pas moi. Parce que oui, je pense qu'il y a aussi un peu ce côté-là en mode je suis une fille, voilà, c'est pas naturel, c'est comme pour les voitures, elles connaissent pas trop comment ça marche. Enfin, je pense qu'il y a quand même encore un peu de ça, mais ça va mieux.
Ah oui, mais je tiens quand même à dire, dans ma grande lâcheté, que si quelqu'un me propose de porter mon matos...
Et ça, je crois que c'est tout le monde.
J'accepte. Ouais, je veux bien qu'on porte mon ampli.
Et vraiment, je fais pas la difficile et j'adore la galanterie dans ces cas-là. Je préfère brancher mon matériel moi-même, mais on peut m'aider, hein, vraiment.
Bon, donc on a déjà pas mal parlé de certains obstacles, donc là on vient d'en citer un. Mais si vous deviez choisir le plus grand obstacle qui consiste à être une femme dans le milieu de la musique belge, même encore actuellement, ça peut être dans le passé bien sûr, mais si vous deviez citer le plus grand obstacle rencontré, quel serait-il ?
Moi j'ai eu la chance justement de pas y être beaucoup confrontée, mais donc mis à part toutes ces questions de je peux pas être compositrice, parce que mais c'était des interactions qui étaient très très ponctuelles, donc j'ai pas été vraiment confrontée à ça. Par contre, un truc qui m'énerve au plus haut point, c'est que être une femme, ça devient un adjectif pour caractériser ta musique. J'ai eu plein de fois des newsletters, des machins, dans des articles de papier ou même à la radio, n'importe quoi. Eosine, le nouveau groupe féminin. Mais non, Eosine, le nouveau groupe de rock, de shoegaze, tout ce que tu veux, mais féminin n'est pas un genre. Donc voilà, ça, je trouve que ça fait un petit peu passer comme si c'était un handicap et qu'on devait mettre ça en valeur et que le genre passait, le genre de musique, je parle, passait après la composition de chromosomes, je reviens là-dessus,
bien sûr,
des membres du groupe. Donc voilà, ça. Et donc du coup, il y a beaucoup d'erreurs dans la communication par rapport au projet. Oui. Aussi, autre chose, en général, donc moi je joue dans un groupe de rock, je joue quand même relativement fort, il m'arrive de crier fort. Et en général, les gens sont bloqués sur cette image. Ah oui, mais tu fais de la musique un peu éthérée, tu fais de la musique un peu ceci, un peu cela. Ça me fait penser à Cranberries, à Beaches, machin truc. Mais malgré le fait qu'ils viennent nous voir, parce que ils restent bloqués sur cette espèce d'archétype. Parce qu'il faut dire que ça représente un archétype. En tout cas, pour les hommes, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a aussi des femmes qui me font ces remarques-là. Mais c'est ça. Il y a une espèce d'idéal comme ça de la chanteuse qui fait de la musique de tel ou tel type. Et malgré tout ce que tu peux montrer sur scène, ça reste dans la tête des gens. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment un problème au niveau de la perception de la musique que tu fais.
Et est-ce que c'est pas lié justement au fait que comme il y a historiquement eu assez peu de femmes, tout d'un coup, il y a une femme chanteuse, guitariste, dans un groupe, comme tu dis, où à la fois il y a un côté shoegaze plus éthéré et à la fois un côté plus expérimental où ça gueule, où ça envoie, c'est pas courant en fait, donc on va souligner le fait que tu es une femme.
Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a de ça aussi. Et aussi, c'est vrai que il y a beaucoup de femmes qui s'illustrent dans des styles peut-être plus éthérés. Donc du coup, systématiquement, bam, on va te coller ça comme étiquette, quoi.
C'est scandaleux.
Bon, tu sais, question référence. Alors, j'ai parlé de, je sais pas, Suzy Quatro. C'est quand même ça qui a accroché. C'est parce que c'était une des premières femmes chanteuses bassistes. Bon, je pense que Saïd, c'est pas elle qui les a composées, c'est ceux qui composaient le glam rock à l'époque. Mais elle avait une attitude sur scène, et puis ça dégageait quelque chose. D'ailleurs, deuxième référence, Joan Jett dit toujours qu'elle s'est beaucoup inspirée de Suzy Quatro. Et je pensais à elle tout à l'heure, je me disais, tiens, voilà un obstacle. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une femme ou parce qu'elle était excessive. Je pense que c'est un petit peu parce qu'elle est une femme. Mais bon, son morceau Bad Reputation, qui raconte quelque chose d'assez touchant, qui raconte ses déboires avec les maisons de disques, essentiellement par rapport à son look, hein, parce que ça déroutait un peu, sans doute, une femme un peu sauvage.
On revient de loin, hein, parce que l'époque de Billie Holiday, elle expliquait les femmes qui étaient en tournée, c'était assimilées à des femmes de mauvaise vie, à des prostituées.
C'est ce qu'on disait des comédiennes de Molière, hein. Des comédiennes au XVIIe siècle,
Et alors, je ne sais pas vous, mais est-ce que vous avez eu aussi, je ne sais pas comment appeler ça, peut-être le symptôme de la groupie ? C'est-à-dire, tu fais de la musique en fait parce que tu veux être avec des mecs, parce que t'es bien dans ce milieu-là, et moi je l'ai connu personnellement.
Oui, par définition, autrefois, le public féminin était groupisque.
Voilà. Il y avait même un objectif.
Alors que la plupart s'en fichaient un peu. Et nous luttions d'ailleurs énormément contre ça. On ne voulait pas être groupies.
C'est terrible parce que, en fait, si on analyse ça un peu de loin, on peut tout à fait être fan, groupie et en même temps être musicienne, mais l'un n'exclut pas l'autre.
Groupie, ça avait une charge...
Ça avait une charge péjorative, ouais, quand même, ouais, c'est
une
vrai.
Une connotation qui ouvrait certaines dérives.
Mais rien que le fait que ce mot existe, en fait, on peut tout à fait être fan. C'est vrai que c'est une sorte de... Une groupie, c'est une sorte de fan excessive.
Mais et c'est féminin, par définition.
Et c'est féminin, c'est pas masculin. C'est important que pour être souligné. Mais donc, c'est fou. Moi, ça m'a toujours rendu dingue, ce truc de la groupie. Tu peux être fan d'un groupe et en même temps, être musicienne, l'un n'exclut pas l'autre. Dominique.
C'est déjà arrivé. J'ai une copine qui est journaliste et donc qui fait des interviews. Et souvent, plusieurs fois, on l'a déjà prise pour une groupie. On l'a dit, ah, tu fais ça. Tu interviews les groupes parce que tu es groupie. J'avais une question pour Elena, c'est comment tu vis le fait d'être porteuse de ton projet ? Cette question m'intrigue parce que j'ai une amie qui est porteuse de son groupe et elle travaille qu'avec des hommes et certains ont vraiment un problème avec l'autorité. C'est-à-dire qu'elle sent la complicité de certains des musiciens entre eux, ils se parlent beaucoup, ils blaguent beaucoup entre eux. Et puis, il se permet parfois une remarque aussi, même en concert. Cette amie m'avait dit, il y en a un qui m'a traité de patronne. Et c'est un truc qu'on n'imagine pas. Entre hommes, de dire « Ah ouais, le patron, tu y vas, toi, hein, faire tes remarques. »
Moi, j'ai la grande chance d'avoir trois musiciens cortiqués et qui ont un esprit critique et scientifique. Et donc, du coup, ils n'ont aucun problème avec ça. Et surtout, je sais que j'ai quand même une autorité. Je pense quand même savoir parfaitement où je vais et où je veux que les autres aillent. Parce que, en fait, quand j'arrive, on répète. Je leur amène un morceau, je leur ai envoyé les pistes, je lui ai dit « Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. » Et puis, on répète, on regarde un petit peu. Moi, j'écoute un petit peu, je dis ça, tu peux faire un petit peu comme ça. Et donc, du coup, il y a vraiment une place qui n'est pas remplaçable, en fait, et qui n'est pas vraiment questionnable, vu que c'est moi qui apporte la composition.
D'accord.
Mais j'ai justement la grande chance que personne n'a jamais douté de ça, parce qu'ils ont accroché à l'univers. Et je sais bien que ça a l'air un peu tyrannique, mais c'est pas du tout comme ça dans les faits. Mais tout ça pour dire qu'ils n'ont vraiment pas de soucis parce que simplement, ils ne se posent pas la question. Parce que pour eux, je suis personne qui mène le projet. Simplement. Et je pense vraiment pas qu'ils ont de soucis avec le fait que je sois une fille. Après, j'ai un caractère un peu étrange, je suis parfois un peu timide et tout ça, mais je pense vraiment pas que ce soit lié au fait que je sois une femme, simplement par ce fait que j'apporte l'entièreté et que c'est pour ça que Yosine ressemble à ça.
Bien, c'est marrant, moi je fais la différence dans toutes mes expériences. Ce rapport de patron-patronne, dans aucun de mes groupes de femmes, je ne l'ai eu. J'ai pas dit que c'était le plus rapide, parce que tout le monde mettait sa pierre à l'édifice, mais on composait ensemble et il y avait pas de directeur ou de directrice. En revanche, quand je vais jouer dans une formation qui existe, où il y a quelqu'un qui chapeaute et qui a créé, où là j'interprète, bon ben là je considère que la personne est le boss, quoi. Tu vois vraiment où la boss. Point. Mais si c'est de la compo en groupe, jamais avec des femmes je n'ai eu de problème d'autorité dans un sens ou dans l'autre.
Et moi je voulais rebondir là-dessus justement parce que avec Yosine, donc je ne connais pas cette manière de jouer, de composer avec tout le monde qui apporte un petit peu sa petite graine, vu que évidemment les autres musiciens interprètent à leur manière et apportent certaines choses aussi, hein. Je dis pas que c'est parfaitement ce que j'ai fait et tant mieux, c'est beaucoup mieux comme ça, mais j'ai eu l'occasion de participer deux fois à un événement qui est organisé par d'une part francophone et d'autre part par court-circuit, qui sont les secrets de session. Et en fait, ça, donc l'idée, c'est de réunir des musiciens, des musiciennes de tous horizons. Ou, par exemple, pour le court-circuit, c'était que des gagnants du concours-circuit. Et de mettre tout le monde dans des pièces et de sortir un morceau toutes les deux heures. Et je me suis rendu compte que là, c'était... tout le monde prenait un petit peu le lead, mais parfois on questionnait les idées. Et là, il y avait une espèce de... Tout le monde a rangé son ego, que ce soit des leaders de groupe, que ce soit des gens qui interprétaient plus, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Il y avait une espèce d'égalité comme ça où personne ne questionnait le fait que telle ou telle personne prenait plus ses responsabilités sur tel ou tel passage. J'ai trouvé ça vraiment chouette.
Oui, c'est chouette. Ça me rappelle, ça c'est les années 60, ils enfermaient les groupes dans des... Je crois que c'est la Motown qui faisait ça. Et ils faisaient un disque en deux heures. Hein. Tout le monde jouait live. Quelle époque. Oh, dis donc, ça doit être chouette ça quand même.
Bah, tenez, faisons-le en fait. Oui. On va dans la pièce à côté.
Mais quand je te dis, tu vois, composer à plusieurs, c'est pas forcément qu'on compose le même morceau à plusieurs, mais qu'un morceau vienne de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre ne pose. En groupe, en tout cas, ne m'a jamais posé de problème.
Qu'est-ce que vous pensiez qui aurait changé si vous aviez été des hommes, Laurence ?
Je ne sais pas. Parce que je ne me sens pas très différente depuis toujours. Hein. Moi, je suis bien dans mon pantalon.
Et toi, Elena ?
Moi, je pense ça aussi. Je pense qu'on partage cet aspect-là de ne pas faire la différence fondamentalement. Mais par contre, au niveau l'année dernière, on a été sélectionné pour plein de trucs. On a notamment gagné le concours circuit. On a eu plein de chances d'une certaine manière. Et je vais dire un truc un petit peu cash, mais je ne sais pas si j'aurais gagné le concours circuit si j'avais été un homme. Je dis pas qu'on a fait un mauvais concert et qu'on a été sélectionné juste parce qu'on était des femmes, mais je sais que dans ce genre d'organisation, c'est louable, hein, c'est chouette justement de qu'il y ait une ouverture comme ça et que les femmes et les d'autres personnes sexisées, racisées, tout ce qu'on veut, ne soient pas mises de côté. Mais à l'inverse, je sais qu'on va plus loin si on est une femme ou si on est sexisée, racisée ou quoi que ce soit. Et donc je me pose cette question-là. De justement, elle s'en revient à se poser la question de la légitimité, mais à l'inverse.
C'est ce que disait Laurence tout à l'heure concernant le côté pervers, un peu malsain des quotas. C'est-à-dire que ça part d'une bonne intention, on va dire on va mettre des quotas féminins, etc. Et finalement, on se retrouve avec un truc inversé, où on se dit, ah ben du coup, on va prendre que des femmes.
Ben c'est ça, c'est exactement ça. Et on en vient à, par exemple, je pense pas que c'était trop tôt pour nous, mais je sais qu'il y a beaucoup de groupes qu'on va chercher et qui sont pas du tout prêts à monter sur scène, mais qu'on va chercher parce que, oh, il faut un groupe avec des femmes. Et donc, du coup, le problème, c'est que ça a un impact négatif sur comment est-ce qu'on voit les instrumentistes, parce qu'on va chercher des gens qui n'ont jamais fait de concert, on va chercher des gens qui ont pas encore composé un album complet, ou qui n'ont pas l'expérience. Et donc, du coup, on va se dire, merde, en fait, c'est ça, des femmes qui font de la musique, elles ne savent pas jouer. Et c'est radical et c'est poussé à l'extrême ce que je dis, mais il y a pas mal de groupes, je sais, et moi j'en fais partie. On a été nous chercher trop tôt en partie pour ça. Et nos premiers concerts étaient catastrophiques en partie pour ça.
Mais c'est parce qu'en fait, il faut jouer à un moment, il faut. C'est comme rouler à vélo, quoi, il faut rouler.
Ça me fait rire ce que tu dis, parce que moi, je parle d'un côté beaucoup moins professionnel. Nous, on était très contentes de ne pas savoir jouer. On est montées sur scène sans savoir jouer, parce que ça vient d'une époque où le passage du mouvement punk avait dit à tout le monde c'est pas grave si vous savez pas jouer, vous pouvez jouer quand même.
Je tiens juste à rebondir là-dessus, on ne sait toujours pas jouer, on n'est vraiment pas des bons techniciens, mais maintenant on l'a assumé. Mais je dis juste que c'est vrai qu'il y a des groupes parfois qui en souffrent et qui peut-être auraient eu besoin de plus, mais nous on n'est vraiment pas des techniciens, on connaît rien, moi je sais même pas lire une tablature, donc voilà.
Je sais plus quel féministe avait dit que le combat serait gagné quand une femme incompétente occuperait une place de haut niveau avec incompétence.
Il y a quand même toujours un problème parce qu'on met en avant des personnes racisées, sexisées, mais elles sont la plupart du temps très très jeunes. Et je vois rarement des personnes handicapées sur scène. Et moi personnellement, j'ai plus de 50 ans et je joue presque plus. Je pense qu'il y a vraiment question là d'agisme.
Mais c'est vrai. Ça, c'est vrai.
C'est vrai.
Il y a très peu de modèles. Allez, je comptais combien de rockeuses il reste de plus de 50 ans. Il y a toi, il y a moi. Qui y a d'autres? J'en connais une qui vient de décrocher. Donc,
mais c'est fou, j'ai 23 ans.
Moi, dans mon cœur aussi.
Enfin, plusieurs fois.
Et c'est vrai qu'il y a aussi une chose, notamment pour revenir au concours circuit, il y a aussi ce côté-là que nous, c'est peut-être aussi un facteur qui a favorisé. C'est parce qu'on était jeunes. À l'époque, on avait 20 ans. Et, enfin, je dis à l'époque, c'était il y a un an. mais c'est vrai que tous les groupes qui étaient un peu plus âgés, bah, ils se sont fait mettre dehors parce que, et peut-être pour une bonne raison, pas de leur âge, mais qu'ils avaient déjà des contacts. Et, mais c'est vrai que, du coup, les nouveaux groupes émergents, bah, c'est que des jeunes, par ce fait-là. Donc, je sais, il y a certainement ce côté d'agisme, et il y a aussi ce côté-là, bah, de dire, bah, c'est bon, il n'a pas besoin d'aide, celui-là. Voilà, ça. Tout ça fait en sorte qu'il n'y a plus que des petits jeunes qui sortent. Et comme on le disait, peut-être des petits jeunes pas assez préparés.
Oh, bah je compatis Dominique parce que nous cumulons plusieurs problèmes.
Hein. À l'époque, quand on a commencé, c'était déjà pas évident d'être des femmes et maintenant plus âgées.
Non, et puis la musique en Belgique, c'est pas simple. Non. Et nous tirons sur la longueur. Et je pense qu'on subit, l'agisme certainement, Mais il y a aussi le fait que, bon, depuis le temps qu'on est dedans, tu vois, on se dit qu'on n'a pas le...
Oui.
Voilà. Mmh. Qu'on devrait bien se débrouiller, alors que c'est quand même difficile.
Quel est le plus gros problème dans cette thématique de l'agisme? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, tu n'arrives plus à faire des concerts? Qu'est-ce qu'on te dit, par exemple? Qu'est-ce que les promoteurs,
mais
les
justement, organisateurs... j'aimerais bien qu'on me dise quelque chose. Je pense que le plus difficile, c'est le silence. Je préfère recevoir un non, parce que je book moi-même, donc j'envoie des mails, et c'est le silence qui est aliénant, en fait. Je préfère recevoir un non
là, Dominique,
plutôt que le silence.
Je pense qu'il y a un autre problème pour nous qui faisons ça à notre niveau, depuis si longtemps, c'est qu'on cumule deux casquettes. Et on ne sait pas à la fois défendre notre projet musicalement et faire les démarches et se manger des refus, des pas de réponse. Je crois qu'il y a ce problème-là. Il faut dédoubler les casquettes. C'est très difficile de vendre son projet, quoi, ou de le faire tourner, parce que c'est une autre implication, c'est un autre métier.
Bien sûr, moi je rêve d'avoir un booker.
Hein. Bien sûr.
Ce serait ça, ça me permettrait de me concentrer davantage sur la musique.
Et là, peut-être qu'alors la question de l'agisme revient, est-ce qu'on book des gens, des femmes de notre âge?
Ouais. J'ai vu un très chouette groupe qui s'appelle les 1-2-3, je pense, et elles ont la septantaine. Et une amie me disait, toi t'es entre les deux, attends encore. Bon, je vais encore attendre 15-20 ans.
Et alors là, ça devient, on revient dans le même problème, en mode, ah oui, le groupe de vieux, et ça, c'est comme le groupe de femmes. Et
voilà.
Ça devient une nouvelle caractéristique à coller, quoi.
Je vous conseille,
voilà les vieilles.
Je vous conseille le merveilleux groupe de Zimmers. Un groupe anglais qui fait notamment des reprises de Prodigy. C'est fameux. Et c'est très bon en plus. Hein.
Parce que les groupes de cover, c'est toujours un peu à double tranchant.
Non, c'est cover. cover en EHPAD, très comique. Et très bon. I'm a trouble starter. Pension dedicator. I'm the fear of the kid. A danger illustrated. I'm a fire starter. Twisted fire starter. You're the fire starter. So twisted fire starter. Je vais te faire deux balises dans le sexisme. Donc, en venant, d'ailleurs, je te l'ai raconté tout à l'heure, je vais penser à la toute première répète de ma vie. Donc, je suis engagée par le bassiste pour venir chanter. Moi, je suis très énervée, j'ai toutes les paroles de Motorhead parce que je ne sais pas ce que j'allais chanter, j'ai encore rien écrit. Et donc, j'arrive dans un groupe punk rock, là, et le guitariste me regarde. Je dis bonjour, déjà, tu vois, je ne connaissais personne. Et le guitariste me dit... Pas de filles dans le groupe.
Quoi ?
Voilà, ça c'est la première phrase du guitariste. Mais comme j'étais grande gueule à l'époque, je réponds, eh ben, c'est toi qui vas partir. c'est lui qui est parti. Je suis restée.
Wow.
Et donc ça, c'était la première répète de toute ma vie en groupe. Et alors, aujourd'hui, en arrivant à la radio, je disais à Dominique, j'étais en train de me garer. Il y a un monsieur qui passait dans la rue et commence à me faire signe pour m'aider à me garer comme si j'avais jamais...
Mais c'est bien connu, les femmes, ça sait pas faire de créneau.
Créneau, je suis la reine du créneau. I'm an eagle of the road. Et donc, mais je trouvais ça comique que ça se passe maintenant, tu vois, en se garant, je me dis, tiens, Et c'est des choses sur lesquelles j'aurais jamais ouvert les yeux en 88, par exemple. Parce que le fait que... Que la jeunesse évoque ses soucis, ses attitudes. Je veux dire, même le mot sexisme, j'étais en train de me demander si on l'utilisait à l'époque. Bon, je pense que oui, et que bon, et ma grand-mère était une féministe qui a fait des combats, que je remercie et que je respecte énormément. Mais je pense qu'il y avait quand même une façon de fonctionner où on ne mettait même pas...
On nommait pas les choses,
on les nommait pas.
Il y avait des malaises, mais on les nommait pas.
Voilà, et certains, les plus costauds, sont tirés par l'humour, des choses comme ça.
C'est ça.
Mais ça existait, en effet.
Ouais. Moi, j'en ai une belle, hein, en matière de sexisme, mais elle est amusante. C'est dans mon groupe Naifu, on était trois musiciennes et un musicien, et on va jouer dans un bar qui s'appelle Le Président, c'était rue Hôtel des Monnaies, et on arrive dans le bar, et puis il y a un gars qui s'exclame « Oh, ils ont de la chance, ils ont des filles pour porter leur matériel !»
Okay. Tiens,
je peux dire que j'étais contente de monter sur scène.
Bon. Mais la question de l'humour est en fait très intéressante, j'y avais pas pensé. Parce que souvent, les hommes font des blagues. Enfin, c'est-à-dire qu'ils justifient des propos sexistes en disant « mais c'est une blague ». Et en fait, finalement, l'humour chez les femmes est une sorte de, d'arme égale. C'est-à-dire qu'on répond à l'humour par l'humour et on finit par inverser un petit peu ce...
Ouais, ça on a fait très souvent, par exemple. Faire de l'humour face à tout ça. L'humour nous a beaucoup servi. Je vais te raconter une petite anecdote pour te situer, c'est vrai, sur quoi, où se trouvait la réponse. Donc, voilà, nous parodions les noms de tous les groupes de nos copains. Enfin, tout le monde a connu Atikoglu, où tout le monde répétait à Bruxelles. Voilà, on mélangeait, c'était deux étages, il y avait 30 locaux, tout le monde a répété là-bas. Et donc, nous, avec les filles, on s'amusait énormément à renommer les groupes. Et donc, c'était de bonne guerre, on passait, on découpait, on glissait sous les portes et tout ça. Et les seules réponses... Bon, évidemment, on avait envie d'avoir des réponses comiques aussi pour nous, mais les seules réponses qu'on ait eues, c'est des trucs de cul. Ah. Tu vois, c'est comique, hein ? C'était pas le calembour, c'était des photos, voilà. Ils mettaient notre tête et c'est pas ça. C'était drôle aussi, mais c'était quand même toujours le même registre.
Oui. Mais ça, c'est vrai qu'il y a aussi un peu ce côté-là. Enfin, je vois plein de festivals ou d'associations, d'organisations féministes, et je vois que très souvent, c'est des jeux de mots qui parlent de cul, comme si le féminisme c'était automatiquement orienté sur le fait d'assumer de montrer sa chatte, quoi. Excusez-moi. Mais...
Il me semble qu'on se lâche, là.
Mais je suis désolée de dire ça, mais plutôt de... Comme si être une femme, mais ça ne tournait qu'autour de ça, alors que c'est tellement plus large et c'est tellement réducteur, et je ne sais pas d'où vient cette idée, si ça vient des hommes ou si ça vient de femmes qui voulaient défendre ça. Et pareil pour certaines féministes, certains groupes féministes qui prétendent l'être jusqu'au bout, qui jouent à poil. Mais ok, c'est très bien, je veux dire, mais... En quoi est-ce que ça défend la cause? Je veux dire, moi, je trouve que ça peut la discréditer aussi.
Parce que c'est une sorte de raisonnement par l'absurde.
Oui, peut-être, peut-être.
Mais qui peut desservir la cause? Là, je te rejoins.
Moi, je trouve que ça peut la desservir. Par exemple, je ne sais plus ce que j'avais vu, je ne sais plus du tout qui avait écrit ça, mais un truc qui reprenait plein de règles de bienséance des concerts, je ne sais plus exactement ce que c'était. Et le titre du post Instagram, c'était « Broute ma charte ». Mais c'est drôle comme ça, mais tu n'as pas envie de prendre ça au sérieux alors que ça parle de sujets qui sont justement très sérieux. Et ça fait revenir ça en mode bah, le féminisme, c'est voilà, accepte le fait que j'ai un. Tu peux appuyer sur le bouton censure. Et voilà. Mais voilà, je trouve que ça
dessert
pas mal.
Groupie, patronne, on ne sait plus très bien. Non, mais j'ai l'impression presque ici, ce sont des méthodes de communication pour attirer l'attention. C'est presque trop gros que pour être vrai.
Peut-être. Mais moi, ça m'avait interpellée.
Ah oui, mais c'est interpellant.
Écoute, enfin, je sais pas. Moi, je juge pas le militantisme des autres parce que voilà. Et donc, j'ai une copine là qui, elle milite en montrant son corps, en provoquant. Mais je respecte. Je peux pas le faire. Mais je respecte tout à fait sa démarche.
Hein. Ah, et c'est très bien qu'il y ait des gens qui le fassent. Je trouve ça vraiment chouette. Mais à partir du moment où...
Voilà, elle l'oblige à accepter ce physique et à en parler.
Et c'est super.
Oh, bien sûr.
Et à l'inverse, un homme qui le ferait, ou n'importe qui, ou n'importe quelle personne qui aurait envie de le faire, ma foi, c'est un acte de communication. C'est, ok, c'est très bien. Mais ici, je trouve que juste le fait que ce soit repris par des médias qui prône le féminisme, je trouve ça un peu étrange d'imposer cette vision-là, en fait. C'est pas juste une personne qui se dit « Ok, je vais montrer à poil ou je vais faire des blagues de cul », c'est juste vraiment... C'est la stratégie de communication de médias à l'idéologie féministe. Et ça, je trouve ça un peu étrange.
Oui, en même temps, c'est quand même une partie importante du combat. Hein.
Bien sûr, bien sûr.
Mais Laurence, tu viens aussi d'une époque où c'était... Le punk. Disons qu'aujourd'hui, il y a
non,
peut-être
moi,
moins...
Non, moi, je suis pas si vieille quand même. Hein. Oui, j'étais encore petite. Dire
l'esprit punk, si tu veux.
Mais en effet, il restait quelque chose de cet esprit-là, libre, provocateur.
Cet esprit-là, je trouve, dans notre époque, à Elena et à moi, c'est un petit peu perdu. On a moins ce recours au punk. C'est très différent. Je sais pas ce que t'en penses, Elena.
Moi, je trouve justement qu'il y a de plus en plus de trucs comme ça. Enfin, mais c'est très émergent. Ça fait peut-être 2-3 ans que c'est comme ça. Je pense à des groupes comme Lambrini Girls.
Oui.
Il y a plein de groupes un peu comme ça.
Il y a peut-être un retour au punk, mais c'est quelque chose qu'on a perdu quand même pendant des années.
Mais je te rejoins et je l'écoutais aussi en défendant son projet. Je me disais, c'est en effet très sérieux et très... Oui. Il y a quelque chose qui a changé.
Mais il y a un retour au punk. Tu cites les Lambrini Girls, qu'on va écouter dans un instant, et c'est un très bon exemple.
Je pense aussi à plein d'autres groupes, par exemple un groupe qui me vient à l'esprit tout de suite quand on parle d'égalité, d'acceptation de soi, de recherche de soi, mais en même temps ne pas faire attention à toutes ces histoires de genre et d'inclusivité finalement, c'est Psychotic Monks, forcément. C'est un groupe c'est extrêmement vrai. Punk et pourtant ils arrivent à faire danser des festivals entiers, c'est un groupe, je suis absolument fan. Et il y a justement cette idée d'hyper-inclusivité, mais... sans spécialement de revendication, quoi, tu prends ou tu prends pas, voilà, c'est tout. Et ils se montrent comme ils sont, comme ils sont d'ailleurs, et voilà, c'est tout. T'acceptes, t'acceptes pas, et ils en font pas des caisses. C'est la musique, c'est des personnes qui se montrent, qui s'exposent, et voilà, tu n'aimes, tu n'aimes pas, et c'est très, 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 très punk.
Mais voilà, les mentalités évoluent et on va terminer sur cette note positive. L'époque est quand même assez accueillante. Tu as utilisé ce mot-là tout à l'heure.
Je plus accueillante. Ce que je regrette un peu, c'est qu'il doit y avoir tant de rabattage pour en arriver là et que ça doive être à l'esprit. Ça devrait couler de source, en fait.
Ah oui, on ne devrait même pas avoir cette émission, en fait.
Voilà.
Et je vous remercie toutes les trois d'avoir fait partie de ce premier épisode. Laurence, Elena, merci beaucoup. Dominique, nous on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt.
À bientôt.
Et un grand merci à Maxime Wathieu qui était au son et qui a suivi tout le débat, toutes ces discussions.